Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 7 juillet 2021, de 18h à 21h, et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission, mais attention, uniquement par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. C'est donc Nicolas Stocker qui dirige ce Libre Journal de la Résistance depuis notre studio virtuel. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Franck.
À vous l'antenne.
Merci Franck. Chers amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce Libre Journal de la Résistance française. Eh bien, Lara Stam, en effet, m'assistera ce soir. Nous la retrouverons en ligne un peu plus tard, certainement pour les questions. Chers amis auditeurs, c'est avec émotion et beaucoup de fierté que je reprends à partir de ce soir le créneau du Libre Journal de Résistance française d'Alain Sanders, patron d'émission sur Radio Courtoisie depuis 2008. Nous aurons l'occasion, chers auditeurs, de l'entendre dans une prochaine émission. Je remercie la présidente de Radio Courtoisie, Dominique Paoli, pour sa confiance, que j'espère ne jamais décevoir. Je vais consacrer l'ensemble de cette émission, chers auditeurs, comme depuis plus d'un an, dans le Libre Journal de la plus grande France, à la gestion par les pouvoirs publics de la crise pandémique de coronavirus. Et plus précisément, sera abordé aujourd'hui le sujet de la guerre vaccinale. Guerre vaccinale que le gouvernement français mène contre les Français, contre son propre peuple. Comme à notre d'habitude, nous tenterons d'opposer au délire de la propagande, aux politiques de la peur, au renversement pervers des situations, à la censure, eh bien la force des faits, l'intelligence du bon sens et l'expertise avérée de nos invités. Mais je ne vous cache pas, chers auditeurs, que je considère la situation actuelle extrêmement préoccupante, en particulier dans les médias. On le sent bien, c'est un véritable vent de haine, et je pèse mes mots, qui souffle dans les rédactions et les plateaux de télévision et de radio. Une haine qui obéit parfaitement à la formule de Bernanos, la haine paraît quand la reconnaissance devient insupportable. Il y a au cœur des pouvoirs, politiques et médiatiques, un refus absolu dans la gestion de cette crise de reconnaître non seulement les arguments de leurs contradicteurs, mais aussi de reconnaître tout simplement leurs erreurs, voire leurs fautes. Combien de fois les observateurs politiques, même les plus soumis à l'ordre existant, ont regretté l'incapacité de ce pouvoir à reconnaître ses erreurs, ses manquements manifestes. Eh bien, cela préparait en fait la haine qui vient. Et en particulier, cette toute nouvelle et suprême haine contre les non-vaccinés, avec des conséquences, soyez-en certains, chers éditeurs, qui vont être redoutables. Car ceux qui sont en face de nous ne supportent non seulement pas de reconnaître leurs faiblesses, leurs failles, ce sont des narcissiques, mais tout simplement ne nous supportent plus. De là la formule de Macron, ces gens qui ne sont rien. C'est très inquiétant cette situation actuelle pour la paix sociale, bien évidemment, parce que la narration unique soutenue par les grandes agences de santé publique est relayée par les médias, du genre « il n'existe pas de traitement précoce du Covid-19 et notre seule chance de revenir à une situation de liberté et d'administrer à la quasi-totalité de la population les vaccins, qui sont sûrs et efficaces », eh bien cette narration exacerbe les divisions dans la population entre ceux qui considèrent les non-vaccinés comme des dangers publics et ceux qui, considérant qu'on manque de recul sur les vaccins et qu'il existe des solutions sans risque et moins chères pour réduire l'épidémie, ressentent comme des oppresseurs ceux qui soutiennent la mise en place de procédés de surveillance générale et des moyens de coercition ou de discrimination à l'égard des non-vaccinés. C'est enfin inquiétant parce que l'absence de débat médiatique concerne également les vaccins eux-mêmes, sur lesquels le débat scientifique est pourtant vif, avec des appels à cesser immédiatement, par exemple, la vaccination des jeunes, et des publications scientifiques estimant qu'en la connaissance actuelle des données de pharmacovigilance, le nombre de décès causés par les vaccins et celui des décès évités sont du même ordre. Alors il semble qu'un accord entre médias, c'est la première fois que j'emploie un anglicisme, chers auditeurs de Radio Courtoisie, TNI, le Trusted New Initiative, puisse avoir une part de responsabilité, on va en reparler dans cette émission, dans les entraves au débat scientifique. Partant de l'intention, somme toute a priori louable, de combattre les fausses informations, susceptible de mettre des personnes en danger, cet accord conduit à une uniformisation des informations disponibles et accroît le double risque d'une information de qualité, que cette information soit à tort considérée comme fausse et qu'une théorie erronée soit martelée comme vraie de toutes parts. Je rappelle que le la TNI ben, regroupe des groupes comme la BBC, Associated Press, l'agence France Presse, Reuters. Là, je viens de signifier les trois grandes agences de presse internationales. Il y a Radio-Canada, il y a le Financial Times, Washington Post, Twitter, Facebook, Twitter et Microsoft. Quel processus d'examen scientifique les guide dans leur jugement pour considérer qu'une information d'ordre scientifique ou médical est vraie ou fausse ? Il serait compréhensible que cet ensemble de médias se fonde sur les positions de l'OMS, mais comment écarter l'hypothèse qu'une capture en fait de celle-ci par les intérêts privés ou les conflits d'intérêts de ses responsables puisse conduire l'OMS à adopter des positions moins scientifiques que favorables aux affaires de telle ou telle industrie ? Si tel était le cas, ce que certains observateurs dénoncent déjà, comme on l'a décrit, eh bien c'est une part considérable de la presse mondiale qui se ferait peut-être, à son insu, porte-parole d'une désinformation massive et j'ajouterais potentiellement criminelle. Alors pour évoquer l'ensemble de ces sujets, en fil rouge durant cette émission, le docteur Vincent Reliquet, est maintenant un habitué de Radio Courtoisie, ça fait au moins trois fois que nous l'entendons sur ces ondes, c'est un ancien médecin urgentiste, il exerce la médecine générale dans le nord de la France. Et il est cofondateur avec le docteur Michel Delorgeril, que nous avons aussi eu sur Radio Courtoisie, de l'AMCIP, c'est-à-dire l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Bonjour docteur Reliquet.
Bonjour Nicolas Stocker, vous allez bien ?
Oui, et vous ?
Eh bien écoutez, j'ai mon rond de serviette chez vous, je suis ravi.
C'est parfait. Vous êtes imposé, docteur Reliquet, comme une figure et une voix de la résistance à cette gestion de la pandémie par le gouvernement. Comment vous évaluez, en ce qui vous concerne, la situation aujourd'hui ?
Elle est catastrophique, mais elle sera moins catastrophique aujourd'hui qu'elle va l'être demain, puisque de toute façon, la rhétorique guerrière non-vaccinée prend de l'ampleur. Il est question aujourd'hui, et on le voit, dans les cartons de nos dirigeants, des préparations de plans non-vaccinés pour la rentrée. Si jamais il y a à nouveau une flambée de Covid, il y aura probablement des restrictions de liberté qui seront appliquées uniquement aux gens qui ne seront pas vaccinés. Alors ça, c'est pas du tout quelque chose de délirant. Je sais qu'on a l'habitude de dire que ceux qui ne sont pas dans le sens du gouvernement sont des gens qui racontent et qui affabulent, mais c'est un travail qui est actuellement rédigé par Cauchemet, Fontané, Yars Dantpana, donc les gens de l'Inserm, les gens du conseil scientifique. Donc c'est quelque chose de précis, quelque chose de méthodique. Ça va être froid et glaçant. Puisque certaines personnes n'ont pas de vaccin, eh bien ils n'auront pas les mêmes droits. Donc si quelque chose de pire peut arriver dans un pays démocratique, c'est bien de trier sa population avec des éléments de ce genre. C'est absolument abominable.
On est bien d'accord, docteur Reliquet. On commence l'émission en plantant le décor. Alors moi, j'aurais aimé, pour justement planter le décor de ce libre journal de la résistance française, que vous nous rappeliez, que nous fassions un retour sur cet incroyable calendrier Covid 2019-2020.
Alors c'est effectivement, il y a beaucoup de choses que les gens n'ont jamais su, c'est-à-dire l'enchaînement exact avec des dates précises qui ont jalonné toute l'année 2020 et la fin de l'année 2019. Je crois qu'au préalable, il faut peut-être que les gens comprennent que depuis 2005, les grands États internationaux ont ratifié le règlement sanitaire international RSI 2005 de l'OMS, qui dit une chose suivante, qui est une chose qui est absolument la base de tout ce qui va découler de nos trois heures d'émission, qui dit qu'en cas d'épidémie, tous les pays doivent se ranger derrière la barrière de l'OMS pour adapter des moyens de lutte contre l'épidémie qui soient coordonnés. Et encore une fois, quand on entend une histoire pareille, on comprend que c'est parfaitement logique. Si demain, on a une épidémie d'une maladie abominablement grave, il sera évidemment extrêmement bienvenu que l'ensemble des pays aient une réaction qui soit coordonnée et si possible intelligente.
Par une organisation mondiale, qui est l'Organisation mondiale de
la
santé.
Oui, c'était sur l'OMS. Bon, alors 2005, vous voyez, c'est quand même déjà loin. Donc les gens ont signé, tout le monde a signé sans grande crainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? Il s'est passé des choses très importantes. Les États se sont financièrement désengagés de l'OMS. C'est-à-dire que les uns après les autres, pour des raisons plus ou moins valables, ils ont baissé leur dotation au niveau de l'OMS avec les plus gros donateurs, comme par exemple les États-Unis, qui progressivement ont baissé leur dotation jusqu'à, avec l'ère Trump, décider de couper les vivres à l'OMS. Et aujourd'hui, ou il y a encore un an, si on regarde quels sont les plus gros donateurs de l'OMS, eh bien, oui, les gens vont peut-être s'étonner de s'apercevoir que ça n'est pas un pays qui est le plus gros donateur de l'OMS. C'est la fondation Bill et Melinda Gates. Oui. C'est eux qui donnent la plus grosse somme à l'OMS pour sa fondation. Bon, le deuxième donateur, c'est l'alliance Gavi. Gavi, c'est Global Alliance for Vaccine and Immunization. C'est encore une organisation qui est pilotée par Bill Gates. Donc Bill Gates, il est déjà premier et deuxième fondateur et deuxième contributeur. Et puis si vous regardez dans la suite, vous avez le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Puis vous voyez à revenir le Rotary. Et ben c'est encore pour une partie des fonds de Bill Gates. Donc Bill Gates, en fait, puisqu'il paye, il faut comprendre qu'à l'OMS, depuis quelques années, c'est Bill Gates qui commande. Et Bill Gates a eu la formidable intelligence de s'associer avec un pays, et plutôt avec un parti, c'est le Parti communiste chinois, et ensemble, ils ont la haute main sur l'OMS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se retrouve face à une crise sanitaire mondiale, avec une pandémie, il faut comprendre qu'on s'est mis dans la main de l'OMS, et que l'OMS, c'est Bill Gates, avec, pour partie, une influence très importante du Parti communiste chinois. Donc vous voyez déjà pourquoi la problématique actuelle est une problématique que parfois les Européens ont du mal à comprendre, c'est parce que ça nous a totalement échappé.
Ça, c'est pour l'OMS et sa toute puissance. Alors, est-ce qu'on peut rappeler le calendrier de départ? Alors, finalement, les choses... Alors,
bien sûr. Ça c'est absolument fondamental. On a rarement vu dans une crise mondiale autant d'événements en si peu de temps. Alors, première chose, faut se souvenir du premier malade du Covid-19. Il a été déclaré malade à Wuhan par un médecin ophtalmologiste le 30 décembre 2019. C'est-à-dire que c'est officiellement le 30 décembre 2019 qu'on a prononcé le mot de SRAS. De SRAS 2, parce que le premier SRAS, 2003, était déjà depuis bien longtemps guéri. Mais si on reprend ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé le 30 décembre, il faut se souvenir que en octobre, le 18 octobre, on a eu les Jeux mondiaux militaires. Et la plupart des pays riches du monde ont envoyé des délégations plus ou moins importantes d'athlètes et de soignants à Wuhan au mois d'octobre. Et ils sont à peu près tous revenus bizarres. Il y a eu des pathologies respiratoires et ORL qui n'étaient pas très bien comprises. Il y a eu pas mal d'athlètes qui ont consulté à Wuhan dans des hôpitaux locaux. Certains sont rentrés malades. Et puis surtout, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand on a commencé à réclamer des sérologies et des PCR chez les sportifs de haut niveau, nos sportifs français, on nous a répondu secret défense.
Bon. Tiens.
Donc ça, c'est quand même...
Ça, alors, le secret défense, en plus, ne venait pas des autorités chinoises.
Ah ben, pas du tout, non. C'est toutes les armées ensemble qui ont organisé un blackout absolu pour nous donner, en fait, une info qui n'a absolument aucune valeur. C'était évidemment, que si on a eu un malade le 30 décembre à Wuhan, eh ben, il était probable, le virus se promenait déjà probablement dans la ville plusieurs semaines avant. C'est évidemment pas du tout un secret de polichinelle. Il aurait été bien plus intelligent de nous donner, dès le départ, de nous dire que nos athlètes avaient été tombés malades là-bas. Alors, on peut comprendre que les armées n'étaient pas très enclines à vouloir nous raconter qu'en fait, ils avaient fait diffuser le virus par le retour de nos athlètes dans toutes les délégations, dans tous les pays d'origine. C'est comme ça que probablement une partie de la diffusion mondiale a eu lieu, mais il faut se souvenir aussi que Wuhan est une ville énorme. Donc il y a un trafic international aérien qui est gigantesque. Donc ça ne sert même à rien d'accuser nos athlètes, puisque de toute façon, c'est une base de commerce mondial énorme et qu'à l'époque, il y avait des centaines d'avions qui décollaient et qui s'envolaient tous les jours pour tous les pays.
Donc, Vous vous souvenez, docteur Reliquet, que dans la doxa officielle, dans le discours officiel et des médias, le virus en France est apparu à cause d'une église évangélique qui a créé, et ça les a beaucoup arrangés parce que ce mot ensuite est devenu viral, hein, c'est le cas de le dire, un cluster, c'est-à-dire finalement un centre de contamination. C'est une malheureuse église évangélique qui serait à l'origine, dans l'est de la France, en Lorraine, si je me souviens bien, de cette pandémie. Il y a vraiment eu un narratif, et un narratif sur lequel on ne revient pas encore, même aujourd'hui, un an et demi après.
Mais de toute façon, je pense qu'on n'y reviendra jamais. Alors, moi, ce qui m'a amusé, parce que j'avais un petit peu travaillé, j'ai travaillé pendant 6 mois sur le début de la pandémie, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir d'où venait le virus. Donc, je m'étais aperçu qu'en fait, on avait eu deux chercheurs français, Alison et Morlon, qui avaient utilisé une technique pour essayer de retrouver le premier SARS-CoV-2 au monde. Ouais. Et en fait, c'est des techniques qui réclament une informatique absolument gigantesque. Faut comprendre que comme un coronavirus est en mutation permanente, quand il mute, une fois qu'il a changé une paire de bases pour une autre paire de bases dans sa chaîne d'ARN messager, il va garder sa mutation. Et puis après, sur la mutation suivante, il va peut-être muter sur une autre zone de son ARN. Ce qui fait que si vous avez un gros calculateur, en voyant la première mutation, puis la seconde, puis les troisièmes, vous arrivez à retrouver la filiation des coronavirus. Et en fait, nos chercheurs ont pointé le premier coronavirus, parce qu'ils n'ont pas eu les souches militaires, au 17 novembre 2019. Voilà. C'est le premier malade officiellement déclaré en phylodynamie. En France, nous avons, comme dans la rhétorique officielle, c'est 17 novembre, mais tout le monde a bien compris que dès octobre, on avait déjà une diffusion importante de ce virus à Wuhan. Mais encore une fois, c'est des jeunes, hein, c'est des athlètes, ils sont en pleine forme. Il y a évidemment que des gens qui font des Covid pas grave. Donc ça n'a pas été du tout quelque chose qui a inquiété sur place. Bon, alors par contre, une fois qu'ils sont rentrés, le narratif a été cadenassé tout de suite, parce que ça ne pouvait pas être nos militaires qui aient pu contribuer à la diffusion de la maladie. Alors, avançons très rapidement, parce que, encore une fois, Je pense que vos auditeurs ont intérêt à bien écouter, parce qu'ils vont et qu'ils se vérifient bien qu'ils sont bien assis, parce que il y a des choses étonnantes. Je vous ai dit que le premier malade, c'est 30 décembre 2019. Ouais. Il faut savoir qu'on a des traces d'un protocole d'accord entre la Bill et Melinda Gates Foundation et Pfizer pour la réalisation d'un vaccin anti SARS-CoV-2 le 10 janvier, 10 jours après. Bon, vous imaginez, c'est quand même absolument incroyable. Et on a les texte, on a les liens Internet. Il y a absolument zéro doute sur ce 10 janvier. La personne qui a rédigé cet article, c'est Emma Kahn à l'EMCIB. On a mis toutes nos données dans l'article. Alors l'article s'appelle Simulation. Vous cherchez sur EMCIB.org, vous cherchez l'article qui contient le mot simulation et vous allez voir que le 10 janvier, Pfizer avait déjà bien avancé pour préparer un vaccin. Alors, le 17 janvier, vous avez l'OMS qui décide qu'on a un test anti-SARS-CoV-2 qui a été proposé par un Allemand, mais complètement inconnu, Drosten, ouais. et il le valide. Alors que l'épidémie est connue officiellement depuis 17 jours. Donc il y a déjà un test. Il y a déjà une proposition de vaccin et il y a déjà le test.
C'est formidable.
Le 20 janvier, donc 20 jours après, le Parti communiste chinois admet qu'il y a bien une épidémie sévère à Wuhan. Donc 20 jours, c'est 20 jours après le premier malade. Mais ils ont déjà 10 jours de retard sur ceux qui ont décidé de lancer un vaccin et 3 jours de retard sur celui qui a déjà le test. Bon, mais ce qui est amusant, c'est que le test, il a été accepté le 17 janvier, oui. Mais qu'il n'y a eu aucune parution de rien. Les scientifiques n'ont pas lu un mot de la définition du test de Drosten, parce qu'en fait, il a été déposé sur une revue qui s'appelle Eurosurveillance, le 21 janvier. Ça veut dire que l'OMS avait déjà accepté le test avant même que l'article scientifique ait été paru dans la presse scientifique. Mais enfin, c'est absolument incroyable. Bon, donc on en est qu'au 21 janvier. On a la pandémie, on a déjà la préparation du vaccin, on a déjà le bon test. En février, c'est Moderna qui annonce qu'il se lance dans la préparation d'un vaccin. Et vous voyez, pour l'instant, on est toujours dans une épidémie.
Oui.
Et c'est là où c'est quand même ce que je vous disais tout à l'heure sur la mainmise de Bill Gates, c'est que c'est épidémie, il se passe rien. C'est-à-dire que ça ne concerne pas l'OMS. Mais pour que ça concerne l'OMS, il faut que ce soit une pandémie. Et la pandémie, ça répond à des critères de malades, d'un certain nombre de malades par 100 000 habitants. Et puisque ça ne vient pas, parce que ça ne se diffuse pas suffisamment vite, le 11 mars 2020, Bill Gates paye 50 millions de dollars aux dirigeants de l'OMS et il obtient sa déclaration de pandémie alors que la pandémie de 150 malades pour 100 000 habitants n'était pas atteinte.
On s'en souvient très bien, docteur Reliquet, c'est-à-dire l'OMS qui se fait tirer l'oreille parce qu'ils ne veulent pas déclarer la pandémie.
Exactement.
Et d'ailleurs, vous avez tout un tas de gens après qui, la main sur le cœur, avec des hoquets de larmes dans la voix, disent « mais si l'OMS avait pu le dire avant ». Que c'était une pandémie.
Ce qui fait que le 11 mars 2020, le monde entier a basculé dans le délire Covid.
Dans l'horreur, dans le cauchemar, dans la terreur.
Et là, on n'a plus le droit de réfléchir au niveau européen, au niveau de stratégie, au niveau national. C'est terminé. Tout le monde doit attendre les ordres de l'OMS et tout le monde doit obéir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ce fameux traité qui lie la presse les uns avec les autres. Mais...
Ah bah justement. Docteur Reliquet, j'ai envie de dire que ce calendrier qu'on semble découvrir uniquement sur des médias, sur des canaux tels que Radio Courtoisie, en réalité, ça fait belle lurette que des personnes comme vous auraient dû être invitées et que vous auriez, depuis belle lurette toujours, dû et eu la possibilité de nous dire tout cela. Or, c'est la censure qui va régner tout de suite. C'est-à-dire que vous avez l'OMS, vous avez les pouvoirs publics, mais sans les médias. Et ça, c'est un élément essentiel. Et donc, vous parlez de la TNI, Trusted New Initiative, sans cette censure générale, et semble-t-il coordonné, tout cela n'aurait pas pu avoir lieu. Expliquez-nous un peu ce que c'est que cette TNI, docteur Piquet.
Bah, écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste des médias. Encore une fois, L'idée est généreuse, l'idée est intelligente. Il y a urgence, on ne peut pas se permettre d'être dérangé par des ahuris, des complotistes, des imbéciles, des abrutis qui vont freiner l'effort général pour sauver les populations d'un péril mortel. Moi, je comprends qu'on puisse faire la guerre à la mauvaise information ou aux personnalités complètement à côté de la plaque. Mais à partir du moment où on décide que c'est l'OMS qui va donner le là, et que l'OMS est dans les mains d'un homme et d'un parti politique qui est quand même pas spécialement bien apprécié en Occident, c'est catastrophique. Et puis ce TNI, il n'est pas du tout parti pour tomber. Donc aujourd'hui, on vit sous terre, vous le savez bien. On fait ce qu'on peut, on essaie de bouger, on essaie de donner de l'information, mais on est très très mal lu. Et puis aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on est de moins en moins considéré, c'est-à-dire qu'on nous regarde de plus en plus comme des gens. Un peu dérangé. Donc là, ça devient dur, ça devient difficile parce que nos paroles n'ont pas changé. Nous sommes toujours aussi arc-boutés sur des dates, des articles scientifiques inattaquables, etc. Et on s'aperçoit que de plus en plus, c'est dur parce que voilà, ce TNI nous écrase.
Là, on a, en tout cas, on a planté le décor. Est-ce que le docteur Vincent, pas le docteur, pardon, est-ce que le professeur Vincent Pavant est parmi nous ?
Oui, je suis là. Vous m'entendez ?
Absolument, Vincent Pavant. Je vais vous présenter dans un instant aux auditeurs de Radio Courtoisie. Docteur Reliquet, pour planter ce décor avant de passer la parole à un mathématicien finalement, est-ce que vous avez des éléments qui vous semblent importants de développer tout de suite ou bien est-ce que l'on reviendra petit à petit
Bien sûr, parce qu'il faut que vos auditeurs comprennent. La guerre du vaccin, pourquoi ? Parce qu'il y a des milliards à gagner à la clé. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que rien n'est fini dans les protocoles de recherche de ces firmes qui sont incroyablement riches. Tellement riches qu'elles peuvent avoir la possibilité de corrompre partout, dans tous les gouvernements, chez tous les parlementaires, dans tous les parlements, il peut y avoir une influence phénoménale des firmes. Donc aujourd'hui, évidemment, cette histoire vaccin, pourquoi ? Parce qu'on nous interdit de dire qu'il existe des traitements à la Covid-19. S'il y a des traitements à la Covid-19, il n'y a plus de vaccin en phase de test. Donc on doit écraser toute voix discordante et tout médecin qui vient annoncer la bouche en cœur qu'il existe des médicaments qui soignent, et ce qui est une certitude absolue aujourd'hui, parce que le monde entier, surtout l'hémisphère sud, utilise des médicaments pour soigner le Covid, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des vaccins, eh bien ça marche très bien. Il faudra qu'on reparle de l'Inde, et puis on pourra parler de quelques pays du monde avec mes confrères de l'épine, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Et je suis ravi que vous ayez invité Vincent Pavant, qui est un mathématicien extraordinaire, qui réussit à faire parler des chiffres et le peu de chiffres qu'on a, fiables. Donc je suis ravi d'entendre Vincent aujourd'hui.
Docteur Reliquet, j'ai entendu le ministre nous dire la bouche en cœur il y a 2 jours que les vaccins anti-Covid n'étaient pas des vaccins en phase expérimentale. Hein.
Non mais qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là ? Non mais il y a des limites au mensonge. Hein. Il n'y a pas un vaccin dont la phase 3 est terminée. Le premier qui sortira
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différentes phases, docteur Reliquet, des vaccins ?
Si vous voulez, c'est très compliqué. Il y a des phases précliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Et toutes ces phases-là, normalement, ne sont pas diffusées au public. C'est-à-dire que c'est des phases où on prend... En phase 3, on prend des volontaires sains, on essaye d'en prendre une quantité suffisante, on essaye de faire du bon travail, c'est surtout important du point de vue de la sécurité du médicament. Mais aujourd'hui, dans cette histoire, vous avez bien compris que c'était la course en sac auprès des plus grands vendeurs de vaccins au monde et qu'ils ont tous fait quelque chose de très moyen sur le plan de la qualité pour surtout pouvoir sortir au plus vite et griller le voisin. C'est ça l'important. Hein. Donc quand on vous dit par exemple que le vaccin Pfizer, pour parler de celui-là, il a enrôlé 40 000 personnes. On dit, bah, c'est extraordinaire, un vaccin essayé sur 40 000 personnes. Ben, non, c'est pas du tout extraordinaire, parce que cette phase de test est criblée d'anomalies rédhibitoires. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, que vous n'allez pas faire un travail randomisé en double aveugle contre placebo, alors c'est un peu technique, ça veut dire que normalement, quand on veut faire quelque chose d'impeccable, personne ne sait ce qui est administré au patient. Voilà. Personne ne sait qui prend le placebo, c'est-à-dire le produit inerte. Personne ne sait ce que prend si les gens sont injectés avec le vrai vaccin. Donc, une fois qu'on a rompu cette règle d'or dans les études épidémiologiques de ne pas faire une étude en double aveugle, déjà c'est foutu. Ensuite, derrière, vous imaginez bien que Pfizer a interdit à quiconque extérieur à leur firme de s'inclure dans la réalisation de l'étude épidémiologique, ce qui fait qu'en fait ils ont travaillé en interne. Leur cuisine est en interne. Bon, que derrière, quand on leur a dit, bah écoutez, nous on vous fait pas confiance, Pfizer, parce que vous venez de prendre 2,3 milliards d'amende parce que pour mauvaise conduite, parce que ils ont eu des marketing illégaux, parce que ils se conduisent comme des voyous, hein. Encore une fois, faut entendre Peter Goetz, le Danois, nous parlait de pharmafia, c'est-à-dire de gens qui ont des comportements, mais de mafieux. Donc à partir du moment où vous voyez ces firmes, la main sur le cœur, vous dire on a travaillé honnêtement, mais on vous montrera pas nos données brutes, vous comprenez que là, c'est pas possible. Et que derrière, vous avez la FDA américaine et l'Agence médicale européenne qui acceptent, et puis le Parlement européen, qui acceptent sans broncher qu'on n'ait pu nous cacher les données brutes des études. Mais c'est hallucinant. Alors qu'on sait qu'ils trichent, puisqu'ils viennent de prendre 2,3 milliards d'euros de dollars d'amende. Vous comprenez ? Donc voilà, on en est là avec des. Alors, c'est amusant, Pfizer. Pourquoi ? Parce que derrière, ils nous ont montré qu'il y avait 192 malades chez les gens non vaccinés et 8 chez les vaccinés. Donc on se dit, ah ben formidable, extraordinaire. Alors on se dit, bon, alors maintenant, on voudrait bien savoir sur les morts, comment ça, est-ce que c'est mieux ? Eh ben, on ne peut pas comparer parce que les 192 malades qui avaient reçu le vaccin, il y en a zéro qui sont morts. Et de l'autre côté, les 8 non plus. Donc en fait, il n'y a pas eu de mort. Donc on ne peut pas savoir s'il y a plus de morts chez les uns que chez les autres, il n'y a pas eu de mort. Et là-dessus, ils viennent nous dire, si, ça marche sur les formes graves. Non mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte du mensonge ? C'est hallucinant.
Et ça, docteur Ruliquet, c'est rien par rapport au fait que quand on entend petit à petit les sirènes de la propagande nous expliquer que très vite nous aurons une vaccination obligatoire. Vous avez parlé de mafia, mais même si en effet dans les grands médias dits mainstream, de grands boulevards qui ont pignon sur rue, on interdit de faire des comparaisons avec Nuremberg, et pourtant, il y a une jurisprudence internationale et imposer de façon obligatoire un médicament quel qu'il soit, hein, ou vaccin, en phase expérimentale, ça peut mener très loin, ça peut mener jusqu'à la peine de mort, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui attend la déléguée OMS, on en reparlera, vous l'avez dit, indienne de la province du Tamil Nadu. Mais écoutez, restez bien avec nous, docteur Ruliquet. Je vais introduire le deuxième invité de cette première partie de cette émission du Libre Journal de la Résistance française qui est consacré à cette guerre vaccinale que les pouvoirs publics, et pas seulement en France, mènent contre leur population, avec quelqu'un qui s'est fait connaître grâce à un réalisateur réalisateur que nous avons eu déjà au moins à deux reprises sur Radio Courtoisie, qui est évidemment le réalisateur de Hold Up, et en particulier Hold Up Plus, c'est-à-dire Pierre Barnérias. Je veux parler de Vincent Pavon. Vincent Pavon a vraiment été dans ce Hold Up Plus un élément plus de Hold Up. Il est maître de conférences en mathématiques appliquées à l'université d'Aix en Provence, d'Aix-Marseille, dans le département Polytech, et nombre de ses recherches portent sur la théorie cinétique, mais néanmoins il est aussi celui qui va nous aider dans cette recherche, dans cette enquête qui est la nôtre aujourd'hui, que tous les médias mainstream n'ont pas voulu mener sur le Covid, sur la Covid-19 jusqu'au vaccin, va nous aider justement à démêler le vrai du faux. Bonjour Vincent Pavon.
Bonsoir.
Bonsoir. Je crois que un des éléments qui vous a fait connaître avant même le hold-up de Barnérias, c'est que vous avez regardé d'un peu trop près, semble-t-il, une étude de Pasteur, qui était l'étude de Fontanet en particulier, Comcor, qu'on a appelé aussi étude Comcor, et qui a permis à nourrir la propagande médiatique, et puis pas seulement, aussi la décision gouvernementale. Et lorsque vous vous êtes penché, parce que vous êtes un mathématicien, parce que vous êtes un statisticien, et on va pouvoir parler aussi, on peut commencer d'ailleurs avec Neil Ferguson, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, quand on regarde un petit peu les études qui permettent aujourd'hui la gouvernance non seulement nationale, mais mondiale, eh bien, on se rend compte, comme vient de nous l'expliquer en plantant le décor le docteur Reliquet, qu'il y a beaucoup à dire et que tout ça nécessite une enquête, indéniablement, sur ces sujets. Vincent Pavon.
Oui, en effet. D'abord, permettez-moi de vous remercier donc, pour cette invitation.
Je vous en prie.
Également de saluer le docteur Reliquet, effectivement, qui a fait un très bon résumé, je pense, des informations essentielles sur la chronologie de ce Covid. Alors, pour revenir, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Donc, la première fois que je m'intéresse, effectivement, un petit peu aux études qui sortent sur le Covid, c'est en mai 2020, oui. Quand Cauchemez et Fontanet sortent un article dans Science qui prétend démontrer que le confinement a réduit de 84,5% la diffusion de l'épidémie.
Ouais.
Donc ça a été mon premier contact et en fait moi je m'y intéresse au début, je suis pas trop convaincu par le confinement parce que je pense que ça manque de données de toute façon, mais en fait je m'y intéresse en me disant voilà, pour une fois que les mathématiques peuvent effectivement servir à expliquer des décisions politiques, pour une fois que ça peut effectivement permettre une rationalisation dans la compréhension d'un phénomène, c'est effectivement l'occasion de s'en saisir. Il se trouve qu'effectivement, les techniques mathématiques qui sont employées dans l'épidémiologie se rapprochent beaucoup, vous l'avez dit, de la théorie cinétique, ce qu'on appelle un peu du transport collision, si vous voulez. Vous avez des gens qui se déplacent et puis de temps en temps, ils se rencontrent et puis ils changent d'état. Donc c'est vrai pour les particules dans un gaz, mais c'est vrai en gros aussi pour ce qu'on essaie de comprendre de la diffusion d'un virus, si vous voulez. Mmh. Et donc je suis intéressé, j'essaie de disséquer l'article en fait pour essayer de comprendre comment effectivement on arrive à démontrer, comme ça se fait dans l'article, que le confinement aurait pu effectivement ralentir cette diffusion de 84,5%. Et là, sincèrement, je tombe de ma chaise. Parce qu'en fait, l'article est truqué. Tout simplement, les cours sont truqués, les résultats sont falsifiés. Et je me rends compte qu'en réalité, aussi bien que je pense que Fontanet, que les 15 autres auteurs qui ont participé à cette étude, n'entendent rien en mathématiques, n'entendent rien au calcul des probabilités, n'entendent rien au calcul de R0, n'entendent rien à rien finalement, et passent leur temps en fait à maquiller des courbes. Donc moi je les ai surpris, j'ai prouvé qu'ils avaient maquillé une courbe en fait, pour essayer de faire croire des compétences qu'ils n'avaient pas, et qu'en théorie mathématique, ils ne comprenaient rien, absolument rien, à des théories de R0 par exemple. Et qu'en fait, tout ça, c'était, excusez-moi du terme, mais des foutaises. Hein. Il y a la thèse d'un côté, la foutaise de l'autre. Et évidemment, ces gens-là ont dangereusement basculé du côté de la foutaise. Et donc, c'est ça qui m'a effectivement rendu effectivement extrêmement sceptique, méfiant, et qui m'a poussé à étudier toujours un peu plus, en fait, des productions d'ordre mathématique sur, effectivement, cette épidémie. Alors, Il y a quelque chose de très important pour rebondir sur ce que disait Vincent Reliquet.
Oui.
S'agissant effectivement, comme il l'a dit, de cette idée que les vaccins arrivent très vite en fait dans la chronologie, alors qu'officiellement on a un premier cas qui serait fin décembre, on arrive déjà au 10 janvier à des accords de principe sur la production d'un vaccin. Alors effectivement, c'est quelque chose que moi j'ai vite analysé quand. De Cauchemette, je suis remonté à Ferguson. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Cauchemette, oui, c'est un étudiant de Ferguson. Et donc, c'est la même école d'épidémiologie, en fait, qui est une école essentiellement du mensonge. Hein, c'est comme ça qu'il faut bien l'appeler. Mm-hmm. Et donc, Cauchemette aura une influence particulière dans l'avis du Conseil scientifique du 12 mars 2020. Ouais. C'est celui donc, qui va présider à la décision
du confinement.
Exactement, voilà, du confinement, où Cauchemette annonce que ce confinement va être décidé sur la base des simulations de Ferguson, qu'il annonce d'ailleurs comme étant une communication personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, vous verrez, personne ne sait comment Ferguson a fait ses simulations, en particulier, on n'est même pas sûr qu'il y ait des simulations pour la France. Et donc, en fait, donc le code de Ferguson, c'est ce qu'on appelle un code stochastique, c'est-à-dire qu'en fait, vous simulez des choses un peu au hasard. Et quand vous faites ce genre de simulation, il faut que vous fassiez un très grand nombre de simulations pour avoir ce qu'on appelle une convergence en moyenne. Hein, c'est ce qu'on appelle des méthodes de type Monte Carlo. Dit autrement, vous simulez un jeu de roulette et puis vous le faites tourner des millions de fois pour voir quelle est la fréquence de sortie de chacun des chiffres. Donc, c'est ça l'idée du code de Ferguson. Bon. Sauf que Ferguson va faire une seule simulation pour l'Angleterre et une seule simulation pour les États-Unis. Et il va annoncer 500 000 morts, en gros, en Angleterre. Et puis, il va extrapoler un peu tout ça à tous les pays européens, si rien n'est fait. Et si rien n'est fait, ça voulait dire, en fait, bien si le confinement n'est pas mis en place. Et quand vous lisez le rapport 9 de Ferguson, c'est le rapport, le fameux rapport de l'Imperial College, en fait, qui d'ailleurs va être diffusé un peu partout dans les pays européens et à l'OMS. Il faut savoir que Ferguson collabore de longue date à l'OMS. Il était déjà à la baguette, en fait, en 2010, au moment, effectivement, de la grippe H1N1.
Oui, oui, c'est ça.
Et donc, déjà, à ce moment-là, il était dans les simulations catastrophistes, si vous voulez, avec un code.
Et il se trompe totalement. Et ça, on le sait, on en a l'expérience.
Tout à fait. Donc, alors, en fait, quand vous regardez son code, c'est. Donc, en fait, ce qu'il fait, il simule un jeu de roulette, et puis il fait un tirage, il voit que le 12 sort, et puis il dit à tout le monde, bah, il faut miser sur le 12, parce que le 12 va sortir à 100%. Donc, en gros, c'est un peu l'esprit du code, donc c'est complètement délirant déjà dans le principe. Mais en plus, c'est un code, en fait, que peu de gens ont vu tourner, dont on n'a pas eu l'entière publicité, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui est d'usage en science, en particulier avec ce genre de codes informatiques qui sont toujours très lourds, vous avez le devoir, en fait, de les rendre publics de sorte que, effectivement, on puisse vérifier ces fameuses vérifications scientifiques, on puisse la faire. Or là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, et les bouts de code qu'on a eu effectivement, qui ont été rendus publics, une ou deux personnes ont réussi à les faire tourner tellement c'était mal écrit, en fait, ont déjà été des codes réécrits par rapport à ceux dont on sait qu'il les a fait tourner pour annoncer ces résultats. Donc en fait, Ferguson donc, simule n'importe quoi. Il y a plus de 950 paramètres dans le code de Ferguson. C'est un truc juste hallucinant. C'est-à-dire qu'en gros, tout est choisi de manière complètement arbitraire en termes de paramètres et vous sortez exactement ce que vous mettez dedans, c'est-à-dire ce que vous voulez. Bon. Et donc, en fait, dans son rapport 9, Ferguson dit, voilà, il va y avoir deux stratégies. La première, c'est les confinements en attendant le vaccin. Et donc ça, c'est la seconde stratégie. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce rapport 9, c'est que jamais n'est évoqué, comme le rappelait très bien Vincent Reliquet, jamais n'est évoqué l'idée qu'on pourrait trouver effectivement un médicament, ce qui est d'autant plus surprenant que en mars, donc le rapport de Ferguson va sortir le 17 mars 2020, eh bien en mars 2020, en fait, on connaît déjà la chloroquine, puisque c'est déjà quelque chose qui a été annoncé par les Chinois et que le professeur Raoult a repris, comme on le sait, fin février pour annoncer que c'était effectivement... Bon, il savait que c'était efficace in vitro, donc ça, personne ne conteste. Et donc, en fait, Raoult, effectivement, a commencé à ce moment-là, comme au mois de mars, et très tôt début mars, à soigner des patients avec de la chloroquine et donc a annoncé d'abord sur 70 et puis avec une cohorte toujours plus importante de personnes que le médicament marchait. Donc, on est très surpris dans le rapport de Ferguson de dire qu'il n'y a pas de solution avant un vaccin et deuxième surprise, Ferguson annonce le vaccin dans les 18 mois. Il dit qu'il faudra attendre 18 mois pour avoir un vaccin. Et là, à nouveau, on est quand même un peu surpris parce que, bon, comme le rappelait le docteur Reliquet, les vaccins, c'est normalement très très long, il y a beaucoup de phases, etc. Et donc, on ne voit pas comment effectivement, on peut à l'avance, c'est-à-dire le 17 mars, annoncer déjà qu'un vaccin sera présent dans 18 mois. Et donc, en gros, ce que dit le Ferguson, c'est dire, en gros, confiner les gens, où ce qu'on a vu, c'est-à-dire avec des couvre-feux, donc restreignaient leur degré de liberté, leur liberté fondamentale, en attendant que le vaccin arrive. Et en fait, on n'a jamais quitté, on le voit très bien aujourd'hui, on n'a jamais quitté en fait cette politique.
Absolument.
Et pour le coup, voilà, on a toujours eu à cœur de montrer grand 1 que les confinements ça marchait. Donc ça, c'est l'article de Cauchemez et Fontané au mois de mai, c'est-à-dire que le 11 mai, ils ont déjà, alors que le confinement n'est pas même fini, hein, ils ont déjà la certitude que le confinement marche. Bon, c'est un peu surprenant. Depuis, on sait que c'est faux, puisqu'il y a eu l'article de Ioannidis qui est sorti donc en 2021, qui montrait que on ne pouvait pas faire ça. Et donc moi-même, j'ai fait une étude pour le Conseil scientifique indépendant, avec effectivement des calculs très précis qui montraient que, eh bien, si on prenait un modèle classique de l'épidémiologie, qui est le fameux modèle ICR donc de 1927, on pouvait montrer que parmi 11 pays européens, donc 10 pays plus la Suède, en fait, eh bien, celui qui avait eu le coefficient de diffusion plus faible, c'était précisément la Suède. C'est-à-dire que tous les autres pays européens, en fait,
qui n'a pas confiné.
Exactement. Donc, si vous voulez affirmer de manière le 11 mai totalement péremptoire que le confinement effectivement a permis de ralentir l'épidémie, c'était évidemment un trucage. Donc, moi, je suis revenu très vite au trucage. J'ai très vite compris, en fait, que c'était des affirmations qui étaient purement fantasmées, qui ne correspondaient à aucune contrepartie réelle en termes de mesures d'incidence ou de mortalité, ce genre de choses. Et que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de manière très claire, on a décidé d'abord ce qu'on allait faire, c'est-à-dire confinement puis vaccin, et ensuite, on a produit, de manière ad hoc, c'est-à-dire en mentant, et Cauchemez, Fontané et Azampana, alors surtout Cauchemez et Fontané, puisque j'ai pu les étudier, ce sont des gens qui mentent, à longueur d'article, si vous voulez, sur des articles qui ne sont pas vérifiés, en général par les reviewers. Hein. Il faut savoir que quand ils ont mis, au mois de mai 2020, ils mettent un préprint le 11 mai, et 15 jours après, il est publié dans Science. Autrement dit, il n'a pas été relu. Oui, mais il a fallu quasiment un mois et demi, jour et demi, si vous voulez, pour relire, pour faire tous les calculs, comprendre effectivement que les choses étaient fausses. Mais évidemment, cet article a été accepté dans l'urgence, non pas évidemment parce qu'il voulait faire de la chose, mais parce qu'il voulait continuer une propagande. La propagande existe sur les médias, mais elle existe hélas aussi dans les journaux scientifiques, on l'a vu avec l'enquête.
Oui, non, mais attendez, Vincent Pavant, moi j'aimerais qu'on revienne quand même vite sur cette étude-là, parce que c'est une étude en préprint non relue qui conseille fortement l'enfermement demain des non-vaccinés, c'est ça finalement.
Alors, tout à fait, il y a cette nouvelle étude qu'ils ont publiée. Donc, en fait, j'ai commencé à la regarder un peu, etc. Bon, c'est du même acabit que celle qui est publiée, en fait, en mars 2020, en mai 2020.
Oui.
Là, c'est vraiment la même chose. C'est, d'ailleurs, quand vous lisez le préprint, c'est illisible, c'est peu lisable. Enfin, on cherche absolument pas à faire une science qui soit sans ouverte, critiquable, partagée, avec une responsabilité, avec effectivement un contrôle des pairs. On sert à faire quelque chose, en fait, qui est uniquement je vous donne des formules totalement abstraites, idiotes, et d'ailleurs il n'y a aucune en général, là j'ai pas encore eu le temps de relire parce que j'ai beaucoup de travail par ailleurs sur la pharmacovigilance, mais c'est fait pour essayer de vous noyer en fait, et c'est fait pour être incompréhensible, pour être non reproductible, et vous mettez dans le code ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous partez d'hypothèses qui sont de toute façon, vous dites que les vaccinés sont non transmetteurs, que le confinement permet d'arrêter effectivement la transmission des gens qui seraient malades, ce qui est complètement faux puisqu'on a vu effectivement sur le printemps que c'est le confinement qui avait accéléré, etc. etc. Donc en fait, ce qui se passe effectivement, et pour revenir effectivement, votre remarque est tout à fait pertinente, c'est l'idée que d'abord on décide des politiques, et qu'ensuite on va essayer de produire, de manière scientifique, mais en fait truquée, des études qui tendraient à prouver que les décisions politiques, effectivement, sont conformes à la science. Et donc, la fameuse phrase, pour revenir sur Comcor, la fameuse phrase, effectivement, de Jean Castex, le 17 décembre 2020, qui dira, donc, commentant l'étude Comcor, qui prétendait montrer qu'on se contaminait plus dans les barrières latérales, Castex dira, enfin, il arrive que le bon sens rejoigne la science. Donc c'est ça qui.
Alors ça c'est le comme quoi on se dans les bars et on se contamine plus que. Alors est-ce qu'on peut revenir dessus parce qu'après je sais qu'en plus ça peut avoir un effet judiciaire hein, et j'aimerais bien qu'on revienne justement sur ces histoires de bars de restaurants telles que relatées par l'ineffable Premier ministre Castex.
Oui, alors c'est juste du grand guignol, hein, Castex qui annonce que Comcor est une étude scientifique et qui vient rejoindre ce qu'on connaît déjà de scientifique ailleurs. Bon, alors c'est juste, je sais pas comment vous dire dans l'ordre de la clownerie à quel niveau on arrive, mais si vous voulez, Comcor c'est pas du tout une étude scientifique, d'abord c'est un sondage. C'est-à-dire que c'est comme un sondage politique, on pose des questions et vous répondez à ces questions, avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir là-dessus, tous les biais effectivement qu'il y a d'abord dans le choix des personnes qui répondent, etc., etc. Et à partir de ces réponses, vous allez essayer d'établir des statistiques pour savoir effectivement si les gens qui sont contaminés allaient plus dans les restaurants que les gens qui n'étaient pas contaminés. Donc c'est ce qu'on appelle une comparaison cas témoin. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'Agence nationale de l'assurance maladie, donc qui a envoyé plus de 300 000 questionnaires par internet à des gens qui savaient être des cas positifs de Covid. Sur ces 300 000 questionnaires, donc 30 000, un peu plus de 30 000 ont eu des réponses. Et donc ensuite, à partir de ces 30 000 réponses, donc de cas positifs, on a demandé à Ipsos, en fait, d'aller chercher 1700 personnes qui n'étaient pas des personnes contaminées. Et donc, on a posé donc des listes de questions identiques aux personnes qui étaient contaminées et aux personnes qui n'étaient pas contaminées. Bon.
Ouais.
Et donc, ces personnes ont répondu, en particulier sur leurs habitudes, effectivement, de fréquentation ou pas, du travail, de bar, de restaurant, de sortie, de fête en famille, ce que vous voulez. Bon. Et donc, ensuite, vous faites tout simplement ce qu'on appelle des autres choses, c'est-à-dire vous faites des comparaisons entre les malades qui vont restaurant et les non-malades qui sont allés ou pas au restaurant. Et donc, si ce rapport est plus grand que 1, vous dites, bah, y a un risque, quand vous êtes malade, de vous être contaminé en gros au restaurant. Bon. Donc, le problème de ces études-là, si vous voulez, c'est qu'elles sont fortement dépendantes de ce qu'on appelle des croix, c'est-à-dire des gens que vous interrogez. Il y a des biais énormes, effectivement, dans les gens que vous interrogez. Et là, en fait, il y a un biais assez incroyable dans la pyramide des âges des gens qui ont répondu, c'est que dans la cohorte des gens qui étaient malades, par exemple, eh bien, il y avait plus de jeunes que dans la cohorte des gens qui n'étaient pas malades. Hein, donc ça, c'est un des statistiques qui fait que quand, évidemment, vous interrogez après les gens sur les habitudes de fréquentation des bars, bah, en gros, quand vous êtes dans la tranche 19-35 ans, vous allez plus dans les bars que dans la tranche des plus de 70 ans, en gros. Et si vous voulez, si vous observez ensuite des biais dans la fréquentation des bars et des restaurants chez les gens qui sont malades, c'est pas parce que vous contaminez plus dans les bars et dans les restaurants, mais c'est juste parce que vous avez interrogé plus de gens qui allaient dans les bars et dans les restaurants. Si vous voulez, c'est un des statistiques tout à fait sympa à comprendre et qui est présent dans Comcore. Et Comcore commence comme ça. Donc quand vous regardez la répartition en termes de classe d'âge, eh bien, chez les gens effectivement qui étaient atteints de maladie, il y avait de toute façon déjà une surreprésentation de ces gens-là. Mais ce qui est très rigolo dans cette étude, c'est que on va poser deux questions en fait aux gens qui sont donc dans le questionnaire. C'est grand 1, fréquentez-vous les bars, donc vous répondez par oui non, et grand 2, fréquentez-vous les restaurants, et là vous répondez par oui non. Bon. Et ce que vous pouvez démontrer, c'est que, très séparément, ces questions disent que si on fréquente les bars, apparemment, il y a plus de risques de tomber malade. Si on fréquente les restaurants, il y a plus de risques de tomber malade. Mais comme vous êtes mathématicien, vous pouvez refaire un petit calcul qui est de trouver le facteur de risque sur la fréquentation des bars et des restaurants simultanément. Et là, en fait, quand vous refaites ce petit calcul, ce qui est très rigolo, c'est que vous démontrez qu'il n'y a aucun facteur de risque à fréquenter les bars et les restaurants. Donc autrement dit, si vous êtes logique et scientifique et que vous relisez l'étude Comcore, donc prétendument scientifique justement, bon, on va voir que c'est un sondage, qu'il y a des biais atroces, et que donc quand vous cherchez la cohérence de l'indicateur qui est effectivement présenté, vous vous rendez compte que si vous êtes allé au restaurant, il faut urgemment aller dans un bar pour éviter tout risque de Covid, et que si vous êtes allé dans un bar, il faut urgemment aller dans un restaurant pour éviter tout risque de Covid.
Mais c'est ça, ça,
en fait. Donc en fait, oui, c'est juste hallucinant, enfin, si vous voulez, de prétention scientifique sur quelque chose qui est en fait des chiffres dans un tableau qui ne veulent absolument rien dire s'agissant de la réalité d'un risque qu'il y aurait supplémentaire d'aller dans les bars et dans les restaurants, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, Comcastel dit que c'est une étude scientifique et que vous vous rendez compte que c'est pas du tout une étude scientifique, que c'est juste des règles de trois en fait, dans des tableaux chiffres qui sont arbitraires, et qu'en plus ces tableaux de chiffres sont complètement contradictoires dans les faits qu'ils veulent démontrer. Bon, vous vous dites là vraiment, on prend vraiment les gens pour des imbéciles.
Imbéciles. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Vincent Pavant. Alors, il faut qu'on avance un petit peu dans cette émission parce qu'il y a un nombre d'invités et j'aurais aimé. Alors, je rappelle hein, d'ailleurs que, mais on en reparlera peut-être dans une émission future. C'est que tout ce que vous dites, ça a une traduction aussi. Évidemment, ça peut avoir une traduction devant les tribunaux judiciaires. Et vous êtes cité par la défense hein, aujourd'hui sur deux restaurateurs à Biarritz. Qui ont eu le malheur d'ouvrir leur restaurant en février 2021. À l'origine, d'ailleurs, semble-t-il, c'était pour de la vente à emporter. Malheureusement, ils n'ont pas su dire non à ceux qui se sont installés. Et à ce moment-là, eh ben, ma foi, comme tout bon restaurateur qui se respecte, ils les ont servis. Donc, il y a eu des, comme c'est malheureusement le cas, comme entre 40 et 45 en France, des dénonciations anonymes. Les gens se sont retrouvés devant les tribunaux. Ils ont entendu parler à la fois de ce que vous écriviez et de qui vous étiez. Donc la défense vous cite, semble-t-il, sur entre autres les bidonnages de l'étude Comcor. Et d'ailleurs, vous êtes tellement convaincant que, eh bien, on renonce à une décision judiciaire immédiate. Quand les pouvoirs sont très forts et se sentent en tout cas très forts, ils sont dans l'immédiateté de la décision judiciaire. Là, ils bottent en touche 9 mois avant qu'on sache ce qu'il en sera, renvoie au 30 novembre 2021, affaire à suivre. Mais moi, je veux, parce que quand même, le thème de cette émission, Vincent Pavant, c'est la guerre que nous mène le gouvernement, les pouvoirs publics, à son peuple par rapport à cette obligation vaccinale. Eh bien, je veux que vous nous parliez, parce que vous êtes membre aussi du Conseil scientifique indépendant, je dis bien indépendant, ça n'a rien à voir avec le conseil scientifique de Delfrécy, c'est le conseil scientifique indépendant évidemment de Réinfo Covid, de Laisser les prescrire. Et dans ce conseil scientifique, vous avez fait dernièrement une étude sur la balance bénéfice-risque de la vaccination. Et contrairement à ce que l'on a de cesse de nous seriner depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, eh ben l'étude sur votre balance, eh ben, pour le moins, le résultat est contrasté, Vincent Pavant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude que vous avez faite sur les bénéfices-risques de la vaccination ? Aujourd'hui, c'est le thème ! C'est le thème, c'est le cœur du sujet.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous, on a exploité avec Emmanuel Dard, donc, qui est informaticienne à la fac de Poitiers, en fait, les données de pharmacovigilance européenne sur le vaccin Pfizer, qui sont disponibles en ligne, donc, sur le site de l'Europe. Donc, on a fait, nous, l'exploitation de donc, des gens qui ont ce qu'on appelle un effet indésirable. Et donc, on a basé nos calculs et surtout notre comparaison sur eh bien, la transcription des effets du vaccin et vers ceux du Covid. Autrement dit, ce qu'on a dit, c'est que une personne qui avait eu un vaccin avec un effet indésirable, c'est équivalent en gros à une personne qui avait eu un Covid avec des symptômes. Une personne qui avait fait un effet indésirable et qui était mort, bah, c'était équivalent à la létalité apparente du Covid, etc., etc. Et donc on a exploité par classe d'âge en particulier et par sexe ce qu'on appelle des facteurs de risque, c'est-à-dire bah, en gros sachant que j'ai eu un effet indésirable, première chose, puisque c'est là-dedans que vous êtes répertorié, quelle est la probabilité que j'ai d'avoir un effet grave ou de mourir, sachant que je suis une femme, sachant que je suis un jeune, etc. etc. Bon. Et donc, bon, les deux informations les plus importantes, c'est effectivement l'apparition parmi les effets indésirables eh bien, des effets qui vont être mortels et l'apparition parmi les effets indésirables de ceux qui vont être graves. Et donc, on a pu en particulier, du coup, comparer la létalité apparente de la vaccination, donc sur cette cohorte de gens ayant déclaré un effet indésirable. On a pu comparer, donc calculer la létalité, donc c'est tout simplement dans cette cohorte de gens qui ont déclaré un effet indésirable, bah, tout simplement le nombre de gens qui sont morts divisé par cet effectif total ayant déclaré un effet indésirable. Et on a pu comparer ça, donc toujours avec des données officielles, alors qu'on trouve plutôt sur le site Our World in Data, mais qui est un site aujourd'hui utilisé par le gouvernement lui-même, on a pu comparer donc les létalités. Donc ces létalités apparentes, hein, qui sont des létalités bah, des gens que vous savez être mort du vaccin ou du Covid parmi les gens qui ont déclaré un effet grave ou qui ont déclaré en fait des symptômes, eh bien, elle montre que la létalité en fait vaccinale, elle est hélas défavorable, en particulier chez les jeunes. Donc ça, c'est quelque chose de très important.
Oui.
On a une létalité en fait apparente sur donc telle que j'ai défini hein, sur la tranche des 12-17 ans, donc qui ont déjà été vaccinés dans certains pays européens avec le Pfizer. Eh bien, on a une létalité apparente chez les vaccins chez les 12-17 ans qui est 200 fois plus grande que létalité apparente du Covid chez ces mêmes jeunes. Donc ça veut dire, si vous voulez, que c'est quelque chose d'assez incroyable, mais vouloir vacciner les jeunes, ça n'aurait que d'intérêt, si vous voulez, pour eux-mêmes en tout cas, que de les protéger des formes les plus graves et donc la mort. Sauf qu'en fait, sur les données de Pfizer qu'on a eues, donc mises à jour le 17 juin, eh bien il y avait 400 cas de jeunes donc de 12-17 ans qui avaient déclaré un effet indésirable. Sur ces 400 cas, 300 étaient graves et il y a eu 2 morts, donc ce qui fait une létalité apparente de 0,5%, ce qui est 200 fois supérieur à la létalité apparente du Covid. Et ce qu'il faut savoir chez ces mêmes jeunes, donc, c'est que sur les données que nous, on a pu observer d'après ce qu'on avait téléchargé et les calculs qu'on avait faits, c'est donc que si vous êtes un jeune de 12 à 17 ans, eh bien, la probabilité d'un effet grave, hein, si vous avez un effet indésirable, la probabilité que cet effet soit grave est de 75%. C'est-à-dire que dès que vous avez un effet indésirable chez les jeunes, tout de suite, il est grave. Et quand on dit grave, ça peut effectivement, comme on le sait maintenant, aujourd'hui concerner des myocardites avec des séquelles éventuellement irréversibles sur ces personnes-là. Donc on parle de choses tout à fait sérieuses. Et d'une manière générale, concernant la létalité apparente, ce que nous, on a vu, donc en exploitant les données européennes, c'est que en dessous de 65 ans, la létalité apparente du vaccin était supérieure ou égale à la létalité apparente du Covid. Donc, sur les formes les plus graves en dessous de 65 ans, sur les données qui existent, et sur le calcul proprement défini des létalités, eh bien, les létalités effectivement vaccinales sont supérieures effectivement à celles du Covid. Donc, alors nous, ces calculs-là, donc je tiens à le préciser quand même, ils sont transparents, puisque comme on le fait toujours avec Emmanuel Darle, dès qu'on fait des calculs, on les rend publics, avec possibilité pour chacun des internautes en fait d'exécuter eux-mêmes tous les calculs, de contrôler tous les programmes et d'aller voir effectivement la véridité des sources qu'on utilise. Et de ce point de vue-là, donc on travaille avec des adresses URL et donc on donne en général sur le CIFI le nom des adresses URL et ensuite les gens qui le veulent, en cliquant sur le lien, peuvent voir effectivement l'ensemble de nos calculs, l'ensemble de nos rapports, peuvent les télécharger directement chez eux dès qu'ils ont un compte sur un GAFAM. Et donc, du coup, je crois qu'il faut insister sur les calculs qu'on fait en train de vigilance, sur l'idée, si vous voulez, qu'il faut que tout soit rendu transparent. Et là, en particulier en France, sur le Pfizer, on n'a pas les données françaises. On ne sait pas comment les centres de pharmacovigilance de Bordeaux et de Marseille, qui sont responsables des rapports pour l'ANSM du vaccin Pfizer, travaillent. On est incapable de refaire leurs calculs. Et donc, comme le disait le docteur Reliquet, il y a un vrai problème sur l'accès aux données. La seule conclusion à peu près honnête à laquelle nous sommes intervenus, Emmanuel Darle et moi, c'est que aujourd'hui, il y a manifestement une volonté de ne pas chercher trop loin dans les données qui pourraient être effectivement défavorables. Donc, nous, la conclusion, c'est que en termes de létalité apparente, alors la létalité apparente, c'est pas la létalité absolue, hein, ça veut pas dire que, c'est-à-dire que sur les cas qui se déclarent, c'est-à-dire que quand vous allez faire une réaction à l'injection du vaccin, sur ces cas-là, la létalité du vaccin est plus forte que la létalité du Covid. Donc ça fait partie d'un élément d'une balance bénéfice-risque, si vous voulez, qui est extrêmement inquiétant. Et chez les jeunes, comme je vous le rappelle, donc si vous avez un effet indésirable, dans 75% des cas, il sera grave. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant quand on pense aujourd'hui à un gouvernement qui veut étendre de manière autoritaire effectivement la vaccination chez les jeunes. Donc oui, c'est une guerre des chiffres aussi. Et dans cette guerre des chiffres, si vous voulez, la seule chose qui est indispensable, en particulier quand vous êtes un scientifique, c'est de toujours montrer exactement ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait.
Merci Vincent Pavant. Restez parmi nous parce que des éléments chiffrés, on va en avoir besoin durant cette émission jusqu'à 21h, c'est essentiel. Mais j'aimerais, puisque vous avez parlé de pharmacovigilance, eh bien que nous introduisions le troisième invité de cette première partie, le docteur Amin Emlil. Docteur Amin Emlil, vous êtes parmi nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, docteur, vous êtes pharmacien des hôpitaux, vous êtes un praticien hospitalier, et puis aussi, par ailleurs, et ça c'est extrêmement important, un juriste hein, en matière de droit de la santé. Et vous êtes, dans vos responsabilités au centre hospitalier de Cholet, et bien responsable du CETIAP, C-T-I-A-P. Et ça, le CETIAP, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je ne saurais trop vous indiquer, parce que c'est une mine merveilleuse d'informations, d'éléments factuels, tous vérifiés, officiels, j'ai envie de dire, parce que le docteur Amin Amlil, en tout cas dans la zone de Cholet et des hôpitaux, il est le référent de la pharmacovigilance. Et ça, c'est essentiel. Et évidemment, on peut imaginer que ça donne des migraines, ça fait tourner en bourrique tout un tas de personnes qui, liées au pouvoir, liées finalement à ceux qui, au sein des hôpitaux, sont très proches de la direction et tiennent tous le même discours. Alors, quand il y a un discours qui est un peu discordant, tel que le discours du docteur Amin Amlil, on peut s'imaginer que, eh bien, il y a des dents qui grincent. Mais s'il y a des dents qui grincent, le docteur, lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait se défendre. Parce qu'il est à la fois un spécialiste de la santé, il lit comme personne d'autre, ou pas plus en France qu'un autre, les éléments de ce que peut être un médicament ou un vaccin. Et puis l'aspect juridique, et ça on va en parler, sur le consentement éclairé, c'est essentiel hein, avec le vaccin. Eh bien, c'est un homme de référence. Alors, docteur Amlil, j'aimerais peut-être, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, pour planter le décor de votre intervention, que vous nous expliquiez peut-être, pour commencer, ce que c'est que la pharmacovigilance. Docteur Amlil.
Oui, d'abord, je souhaite vous remercier vivement pour votre invitation. Donc, je suis honoré d'être parmi vous et parmi vos intervenants qui viennent, donc le docteur Vincent Rolica et Vincent Pavon. Voilà. Donc, la pharmacovigilance, en fait, elle est communément désignée comme étant la phase 4 d'évaluation d'un médicament. Vous avez parlé, les précédents intervenants ont parlé des phases qui précèdent l'autorisation de mise. Vous m'entendez ?
Oui, tout à fait, je vous entends parfaitement.
Très bien. Donc les précédents intervenants, ils ont déjà parlé des phases qui précèdent l'autorisation de mise sur le marché. Il y a d'abord les essais qui sont menés chez les animaux, ce qu'on appelle la phase préclinique. Ensuite, on passe chez l'homme, ce sont donc les phases 1, 2, 3, les essais cliniques. Et ce n'est uniquement que lorsque ces essais, qui durent en principe entre une dizaine et une quinzaine d'années, que le médicament peut prétendre à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. Et il est admis que lorsque on mène toutes ces années de recherche, et lorsque le médicament finit par obtenir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, eh bien, on considère toujours un nouveau médicament comme un médicament insuffisamment évalué. Tout simplement parce que durant les essais qui précèdent l'AMM, il y a des insuffisances liées à la quantité et à la qualité des essais. Et ce n'est que lorsque ce médicament sera prescrit chez une large population que lorsqu'on va commencer à le connaître de façon un peu plus précise. Parce que durant les essais, on sélectionne les patients, on n'a pas par exemple toutes les personnes âgées qui ont plusieurs pathologies, qui ont plusieurs médicaments, et donc c'est lorsque on introduit le médicament dans la vraie vie qu'on va commencer à le connaître. Et l'histoire médicamenteuse montre qu'on peut avoir des effets, il y a deux types d'effets indésirables, donc la phase 4, vous avez compris, c'est la surveillance des effets indésirables, c'est la détection, l'évaluation et la prévention des effets indésirables présumés liés aux médicaments.
Oui.
Voilà. Donc là, Aujourd'hui, nous sommes dans un cas inédit dans l'histoire de la médecine.
Mais oui, parce qu'on n'est pas encore en phase 4.
Je vais vous expliquer, parce qu'il suffit, donc tout ce que je vous raconte, c'est vérifiable dans les documents officiels, de, notamment l'Agence européenne du médicament, de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est-à-dire l'ANSM. Donc nous sommes, donc si vous allez regarder l'annexe 2 de l'AMM, et notamment le paragraphe E, d'une AMM européenne centralisée, c'est-à-dire qu'elle est délivrée par la Commission européenne, et donc du coup, elle peut être, le médicament peut être mis sur le marché dans tous les pays européens, et c'est une AMM qui est conditionnelle. Cette AMM conditionnelle, oui. Elle est temporaire. La durée n'excède pas une année. Pourquoi elle est conditionnelle? Eh bien, c'est parce qu'elle est délivrée dans une situation qualifiée d'urgence. Oui. Et donc, conditionnelle, c'est sous condition. Les conditions, eh bien, c'est que les laboratoires fournisseurs de ces vaccins s'engagent à fournir des compléments d'information, des compléments d'études qui ne sont pas terminés, oui. Sur le bénéfice, mais aussi sur les risques. Et vous avez cet annexe 2, le paragraphe E, qui vous donne, vaccin par vaccin, un tableau de tout ce qu'il reste à faire, avec un échéancier. Il y a deux colonnes, il y a à gauche ce qu'il reste à faire, et à droite, la date au bout de laquelle le laboratoire doit fournir les preuves de ces éléments complémentaires. Et ce qui est inédit encore dans l'histoire de la médecine, oui. Et de la pharmacie, c'est que j'ai découvert, à ma grande surprise, parce que j'ai été tout simplement alerté. J'ai pas l'habitude d'aller voir ce paragraphe, pour tout vous dire, parce que je considère que lorsqu'on commence des essais cliniques, la composition du médicament est finalisée, est terminée. Ouais. Or là, j'ai été alerté par une consoeur pharmacienne qui a travaillé dans les affaires réglementaires dans plusieurs laboratoires pharmaceutiques, et qui m'a dit « Regarde ce paragraphe E », et quand j'ai regardé, eh bien on découvre qu'il reste des choses à faire. Donc il est clairement indiqué qu'il faut fournir des preuves supplémentaires concernant la caractérisation, c'est un mot qui est extrêmement important, la caractérisation, écoutez bien, de la substance active, des excipients et des procédés de fabrication. Pour vos auditeurs, c'est un peu, je vais un petit peu simplifier pour que tout le monde puisse comprendre, c'est comme si dans une chaîne de production de voitures, on lance des productions et on n'a pas fini de caractériser tous les matériaux qui rentrent dans les pièces concernant la sécurité d'un véhicule, par exemple, les freins, les pneus, etc. Et donc ça, c'est inédit, ça, si vous voulez.
Non, mais vous êtes en train de nous dire quand même, docteur Emelil, vous êtes en train de nous dire ça, alors qu'il y a à ce jour des centaines de millions de personnes au travers le monde qui ont déjà été vaccinées.
Mais oui, mais l'alerte, nous, on l'a lancée dès qu'on l'a su, c'est-à-dire le 2 avril 2021. Et donc, si vous voulez, là, je vous parle de la composition. Je n'ai pas encore abordé l'aspect des essais cliniques et l'efficacité prétendue sur les formes graves et sur la transmission virale.
Ben, nous vous écoutons, docteur Emelil. Hein.
Voilà, donc j'enchaîne. Donc là, c'est la composition. Parce que, si vous voulez, les pharmaciens comprennent bien cette étape, ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Et c'est fondamental, parce que c'est ça qui va conditionner la qualité intrinsèque d'un médicament et la qualité des lots qui vont être mis sur le marché. Et ces bonnes pratiques de fabrication sont réglementées. Hein, et ils sont vraiment réglementés. Et donc, en fait, si on n'a pas caractérisé le procédé de fabrication, j'aimerais bien, moi, je ne sais pas comment ils font pour valider les lots et pour les mettre sur le marché. Alors, concernant maintenant le bénéfice,
oui.
Parce que là, pourquoi la dimension du bénéfice est importante, c'est parce qu'en fait, nous sommes dans le cas d'un vaccin. Et lorsqu'on est face à un vaccin, c'est un traitement préventif. Ce n'est pas un traitement curatif. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des personnes qui sont a priori non malades.
Hein ? Oui, bien sûr. A priori,
voilà. Et donc, il faudrait que le vaccin démontre un bénéfice suffisant.
Bah oui.
Et de façon certaine. Donc, et c'est pour ça, dans ce cas-là, la dimension du risque, des effets indésirables, prend toute son importance. On ne va pas exposer des gens à un produit dont le bénéfice n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment démontré, et donc on va leur faire prendre des risques qui sont disproportionnés. Et c'est peu dire.
Absolument.
Donc, regardez ce qui s'est passé. C'est-à-dire, dès le mois de décembre 2020, les autorités sanitaires, la Haute Autorité de Santé, a écrit dans ses documents, qui sont publics, que la preuve n'est pas apportée que ces vaccins permettent une efficacité suffisante chez les personnes de plus de 75 ans. Et dans le même temps, et de façon incompréhensible, tout le monde recommande, les autorités ont recommandé de commencer la vaccination chez cette population de plus de 75 ans.
Oui.
Ensuite, ils ont enchaîné avec les femmes enceintes, alors que c'est écrit noir sur blanc qu'il y a très peu de données chez les femmes enceintes.
Quelle honte!
Et maintenant, tout le monde s'interroge sur les enfants. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que ce qui se passe chez les enfants, ce n'est que la poursuite logique de ce qui s'est passé depuis le début.
Oui.
Donc, dès le début, ils ont été très clairs, ils ont dit que la preuve n'est pas apportée sur la transmission virale. Et je vous rappelle que, en l'absence de cette preuve, l'obligation au niveau juridique, on en reviendra plus tard, on ne peut pas imposer, on ne peut pas imposer un vaccin à une population dès l'instant où une personne ne peut pas causer un danger pour autrui. Donc si le vaccin n'empêche pas la transmission entre les personnes, on ne peut pas obliger les personnes à se vacciner. Parce que s'il y avait uniquement une protection individuelle, l'État n'a pas le droit de vous obliger de vous traiter, de vous protéger. La protection individuelle relève de la décision individuelle. L'État ne doit pas intervenir.
Tout à fait.
C'est comme pour la cigarette, pour le tabac. Il y a des gens qui meurent du tabac, il y a des gens qui meurent de l'alcoolisme. Eh bien, l'État ne les oblige pas de ne pas fumer ou de ne pas boire. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le médicament.
Ouais.
La seule exception, c'est que le médicament puisse protéger, le fait de se vacciner puisse protéger autrui.
Voilà, on y est. On y est sur le côté altruiste.
Sur la gravité, Vincent Roliquet l'a déjà évoqué, vous reprendrez, s'il vous plaît, vous mettrez à la disposition de vos auditeurs l'article qui a été publié le 3 juin 2021, donc c'est très récent, sur le site du CTIAP. Et cet article vous propose de façon chronologique des extraits des documents officiels qui montrent comment, sans preuve, ils sont partis de l'absence de preuve en passant par l'emploi du conditionnel pour finalement arriver à l'affirmation que ces vaccins permettent de prévenir les formes graves. Et je vous rappelle que si vraiment ils voulaient démontrer une efficacité préventive sur les formes graves, pourquoi dans ce cas-là, les essais cliniques n'ont pas été construits d'une façon qui permette d'apporter cette preuve. Les essais cliniques n'ont pas été conçus pour démontrer cette gravité, cette prévention sur les formes graves. C'est-à-dire que le monde entier attendait un vaccin qui permet de prévenir les formes graves et d'empêcher la transmission virale, mais les essais qui ont été conduits par les laboratoires n'avaient pas cet objectif. Donc ça, c'est une question fondamentale. Ils avaient plusieurs mois pour le faire et ils ne l'ont pas fait. Ils se sont concentrés sur des formes légères à modérées.
Oui.
Donc pour moi, ce vaccin au départ, j'avais dit qu'il a apporté la preuve d'une efficacité. Je parle essentiellement de Pfizer parce que c'est celui que j'ai beaucoup étudié. Ouais. C'est celui qui est le plus injecté et c'est celui qui est le plus
gros. Oui.
Voilà.
Oui, de toute façon, oui.
Donc, si vous voulez, ils n'ont pas fait les études nécessaires, construites. C'est-à-dire, les critères de gravité, c'est quoi? C'est un vaccin qui empêche l'hospitalisation. Parce que c'est le premier critère de gravité selon la loi, c'est l'hospitalisation. Ensuite, le fait qu'une personne puisse aller en réanimation et les décès. Donc les critères cliniques qui ont été choisis pour évaluer l'efficacité n'étaient pas ces critères-là. Et en plus, quand on évalue un bénéfice, on l'évalue sur ces critères cliniques que je viens de vous citer, au niveau individuel, au niveau de l'individu, par tranche d'âge, par facteur de risque, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, et en plus, on a une durée d'évaluation qui était inédite. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fini leurs essais, Eh bien, l'HAS nous a dit que les résultats de ces études cliniques, ils n'ont que 1,5 mois, je cite, 1,5 mois de recul. Donc, comment voulez-vous avoir une vision à moyen et à long terme sur les effets indésirables? Et pourtant, comment ils ont déployé ces vaccins dès le mois dès fin décembre, début janvier,
oui.
Eh bien, ils ont fait croire aux gens que ces vaccins, une fois vaccinés, seraient protégés contre les formes graves, ce qui était une affirmation non démontrée et inexacte pour ma part. Donc, j'estime que l'information, le code de santé publique, la loi exige qu'une information soit loyale, claire et appropriée.
Oui.
Et donc, il me semble que cette condition n'est pas remplie, d'où mon doute sérieux sur la validité du consentement.
Ah voilà, le consentement éclairé.
Libre et éclairé, et la meilleure preuve de ce doute sérieux, c'est que vous avez eu plusieurs recours qui avaient été introduits par des citoyens auprès du Conseil d'État. Ils ne comprenaient pas pourquoi la première recours, c'était au mois de mars, la première décision rendue par le Conseil d'État, c'était au mois de mars. Eh bien, ça c'est des enfants de résidents d'EHPAD, établissements d'hébergement de personnes âgées et dépendantes, qui ne comprenaient pas pourquoi leurs parents, qui étaient vaccinés doublement avec le vaccin Pfizer, ne pouvaient pas sortir, retrouver une vie normale, pourquoi elles ne pouvaient pas retrouver leurs droits et libertés fondamentaux d'aller et venir, etc. Donc, on découvre avec surprise, auprès du Conseil d'État, les arguments du ministère de la Santé.
Oui.
Et dans ces écritures qui sont versées au mois de février...
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Olivier Véran, oui.
Écoutez, ça, c'est le ministère de la Santé dans des documents écrits, dans des mémoires produits auprès de la plus haute autorité, la plus haute juridiction administrative.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il remet en doute l'efficacité des vaccins.
C'est une blague.
C'est pas une blague. Vous avez tout sur le CTIAP. Vous avez accès à la décision du Conseil d'État. Mmh. Si vous me laissez 2 minutes, je pourrais vous la retrouver. Et si vous voulez...
Mais vous savez, ça suffira, parce que dans le même mouvement ou la même journée, Olivier Véran va dire ce que vous venez de nous annoncer devant le Conseil d'État, et puis après, un micro va se tendre pour les grands médias mainstream, et il va dire l'inverse, l'inverse.
Et bien pourtant... vous reprendrez la conférence de presse du 18 février 2021. Elle est sur le site du CETIAP, le lien est disponible. Monsieur Véran, en personne, a dit qu'aucun pays européen, je vais vous le lire, et sous mes yeux,
oui.
Aucun pays européen encore ne dispose de données publiées fiables du point de vue qui concerne la prévention des formes graves, et l'éviction des hospitalisations, notamment.
C'est incroyable.
Donc, c'est-à-dire le 18 février, devant des journalistes, conférence de presse publique, il dit qu'il n'y a aucun pays européen encore qui ne dispose de données publiées fiables qui permettent d'éviter les formes graves, que le vaccin permet d'éviter les formes graves, et c'est pour ça que les résidents des EHPAD ne peuvent pas retrouver leur liberté. Vous avez le 3 mars... une décision du Conseil d'État dans laquelle on découvre encore les arguments, ce que je vous disais, voilà ce que relève le Conseil d'État. Suite, il dit « L'administration fait néanmoins valoir, d'une part, l'existence d'études récentes invitant à la prudence quant à l'absence de contagiosité des personnes vaccinées. » Il est en train de nous dire que les personnes vaccinées peuvent être contagieuses.
Oui.
« D'autre part, l'incertitude scientifique sur l'immunité conférée par la vaccination » en cours à l'égard des variants du virus. Et troisième argument, enfin, la survenue de foyers de contamination de résidents et de personnel dans certains EHPAD où la campagne de vaccination a eu lieu. Et voilà. Et il a réitéré ces affirmations lors de l'audience qui s'est tenue un mois plus tard et dont la décision a été rendue le 1er avril. Donc, si vous voulez, en tant que pharmacien professionnel de santé qui est chargé, qui a l'obligation d'informer les patients et les personnes, eh bien, j'ai observé ce double langage. D'un côté, les bons arguments fournis discrètement auprès du Conseil d'État, et de l'autre côté, quelques jours plus tard, des affirmations totalement à l'opposé. Donc, si vous voulez, ça, c'est de nature... au niveau juridique, c'est de nature à vicier le consentement.
Oui.
Et donc le consentement, le droit à l'information, je vous rappelle que c'est un droit, alors que le consentement libre et éclairé, c'est une liberté fondamentale. Elle est classée au rang des libertés fondamentales.
Ah.
Voilà, c'est un rang au-dessus. C'est quelque chose d'important. C'est comme la liberté d'aller venir, comme la liberté d'entreprendre, la liberté de culte, etc. La liberté d'expression, etc. Et donc, il y a plusieurs manières de vicier un consentement en droit. Vous avez l'erreur, vous voulez acheter par exemple une voiture, le vendeur, pour signer le contrat, avant de donner votre accord et donc de vous engager dans un contrat, eh bien, il vous a donné une information par erreur. Ça rend le contrat nul. Ça, c'est parce que votre consentement a été vicié. Et les deux autres moyens qui peuvent vicier un consentement, c'est ce qu'on appelle le dol, D-O-L, et la violence. La violence, en ce qui nous concerne pour le vaccin, ça peut être la contrainte sournoise, implicite ou par l'obligation légale.
Oui.
Et puis le dol, il y a trois manières d'avoir un dol. C'est soit un dol par mensonge, oui, soit un dol par manœuvre frauduleuse, soit un dol par réticence.
Là, on y est. On est dans le dol par réticence. C'est un
minima. On est dans le dol par réticence. C'est-à-dire que, je l'ai expliqué déjà il y a plusieurs mois, c'est-à-dire qu'ils savaient, par exemple, qu'ils n'avaient pas la preuve que ces vaccins permettent de prévenir les formes graves, mais s'ils avaient dit ça aux gens, mais pourquoi les gens ils vont se vacciner alors? On leur dit que ça n'empêche pas la transmission virale. S'ils leur disent que ça n'empêche pas la prévention des formes graves, ben, qui va se vacciner? Les gens ne vont pas se vacciner pour un rhume. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que récemment, le Haut Conseil de Santé publique, dans un rapport, je crois, qui a été établi au mois d'avril, fin avril, il a donné des nouvelles directives en tenant compte des nouvelles études qui sont sorties. Et il a donné, par exemple, l'exemple à l'intérieur, donc à domicile. Si vous êtes 6 personnes à l'intérieur d'une maison, eh bien, vous pouvez tomber les masques, vous pouvez enlever les masques. Et il rajoute, sauf si parmi vous, il y a une personne qui peut faire des formes graves. A contrario, ça veut dire qu'ils ne permettent pas la prévention des formes graves. Et parce que j'ai relaté toutes ces informations,
oui,
figurez-vous que j'ai été attaqué sans même être informé, sans même être interrogé au préalable, par notamment l'agence France Presse.
Voilà, les fameux fact-checkers.
Voilà. Et d'ailleurs, ils ont eu le droit à une réponse contradictoire. Et j'ai transmis l'ensemble des éléments au ministère public dans une alerte au procureur de la République. Donc demain, ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant non plus. Voilà.
Alors, docteur Emly, la technique et Franck me prévient qu'il reste, pour conclure dans cette première partie, restez tous, hein, bien sûr, à l'écoute, 2 minutes. Est-ce que vous avez encore, sur 2 minutes, quelque chose à ajouter sur ces différents
points? Eh bien, si vous voulez, juridiquement, un juge, mais il faut que. Enfin, c'est le juge souverain de la décision. Moi, je ne suis pas juge. Hein. Moi, je vous donne un raisonnement sur la base de connaissances vérifiables. Eh bien, si un juge n'a pas la pression et s'il peut faire correctement son travail, pourrait qualifier ces vaccins de ce qu'on appelle des produits défectueux au sens de la directive de 85.
Donc, qu'est-ce que c'est cette directive de 85?
C'est une directive, c'est-à-dire que c'est une responsabilité sans faute du fabricant. C'est-à-dire un produit peut être déclaré par le juge défectueux dans 2 situations. Soit une mauvaise information a été délivrée au patient, soit le rapport bénéfice-risque n'est pas démontré de façon... C'est-à-dire on n'a pas démontré que le bénéfice est supérieur au risque.
D'accord.
Et cette directive a été transposée dans le droit national français, notamment dans le Code civil. Et il a déjà été utilisé aussi bien par la Cour de cassation que par le Conseil d'État. Et donc, si vous voulez, en termes de conclusion, j'aimerais quand même... moi, j'ai relevé quelques points, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que nous sommes dans un pari biologique, au moins, que l'AMM conditionnel interroge vraiment, que l'information n'a été ni loyale, ni claire, ni appropriée,
ouais,
que ça soulève des questions sur le doute sur la validité du consentement, et que nous sommes face à des recommandations contradictoires, donc qui ne pourraient que laisser des traces indélébiles sur la crédibilité des autorités, enfin, en particulier. Voilà.
Docteur Hamlil, c'est un terrible réquisitoire. Je vous remercie ainsi que Vincent Pavant et le docteur Ruliquet. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. Restez parmi nous, chers auditeurs.